ma grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous rendre au festival de Douarnenez, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Francine Schlutz-Jacob. Alors, qui est Francine? Eh bien, elle est entre autres coprésidente de l'UFAT, l'Union française des associations de Tziganes, mais elle est aussi un peu plus que ça. Mais je vais vous laisser avec elle et elle va vous raconter tout ça. De Francine Jacob et bon, je vais te laisser te présenter, ce sera plus simple.
Ben bonjour Jean, d'abord, et je m'appelle donc, je suis Francine Schlutz Jacob, qui suis donc vice-présidente de l'UFAT. Je suis déléguée nationale au forum, donc au FERV, Forum européen Roms et gens du voyage, qui est un statut donc avec le Conseil de l'Europe à Strasbourg.
Et alors, je suppose
que... Et je suis une femme.
Ah ben, c'est bien de le préciser. C'est-à-dire, mais je m'en étais aperçu, donc j'y ai pas pensé.
En tant que femme, voilà. Je rajoute toujours ça parce que c'est pas courant.
Et alors, moi, quand j'entends que tu es représentante auprès de l'Europe, etc., mais je me dis que ce... Enfin, c'est fou, quoi. Ça doit demander un temps énorme, ces contacts.
Un temps, oui, je consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je tiens à dire aussi que mon engagement a été, au niveau pécunier, mon engagement personnel aussi, où j'ai consacré beaucoup de choses pour les miens. Et je me dis toujours pourquoi je suis là, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas voulu, mais je ne sais pas pourquoi, mais il est nécessaire que je le fasse.
Et alors, quand même une question de base. Mm-hmm. Toi, tu es française, bien évidemment, mais d'origine?
Bien sûr, donc moi je suis yéniche, voilà, j'avais de la famille manouche, on venait de l'Alsace, mes grands-parents étaient alsaciens, et étaient comme, dirais-je, comme tout voyageur qui se respecte, entre guillemets, on avait exactement les mêmes métiers que tout le monde avait, les chevaux, le rempaillage, la récupération, enfin tous les métiers, on était des commerçants, voilà.
Et alors, puisque tu es représentante auprès de l'Europe, c'est vrai que les Tziganes, hein, pour simplifier...
Oui, je pense que le mot Tzigane, voilà, convient bien, qui regroupe aussi...
Les peuples Tziganes d'Europe ont des problématiques différentes, ce ne doit
bien
pas
sûr
être très simple.
Ce n'est pas la même chose. Déjà, il faut faire la distinction entre un citoyen français... Un migrant et un immigré n'ont pas la même chose, ne sont pas basés sur la même législation, on est bien d'accord. Donc, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes spécificités. On est face aussi à des gens qui sont nomades et on a des gens qui sont sédentaires comme les pays de l'Est. Donc, deux choses qui sont, comme on le dit, sont venus en France pour raisons économiques qui les ont poussés comme les Roms, Bulgares, Roumains, et qui ne sont pas toujours des Roms. C'est pour ça qu'on tient aussi à remettre toutes ces choses en place. Il est important et que aussi les Roms, Bulgares et Roumains n'aient pas forcément la voix, la représentativité n'est pas la voix de tous les Roms européens.
Et alors, comment ça se passe au niveau de l'Europe? Je veux dire, c'est... enfin, cet ensemble de problèmes, quelle est l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la situation de Tsigane ?
Alors ma vision, je dirais, je m'exprimais personnelle, c'est une vision personnelle, étant dans les instances européennes, où beaucoup de programmes, beaucoup de stratégies, et prochainement je partirai à Helsinki justement le 14 et le 17 pour la stratégie mise en place pour les femmes roma. Je dis jusqu'à quand ? Nous allons organiser, nous avons tous les outils en main aujourd'hui pour avancer dans ce qu'on appelle l'intégration. Mais je me pose quand même la question, le veut-on vraiment ?
Au niveau des instances ?
Oui, parce qu'il y a une volonté, beaucoup de colloques sont organisés, beaucoup de plénières sont organisées, des stratégies qui sont mises en place. Mais on a l'impression que ça ne suit pas, parce que quand je vois sur le plan, au niveau fonctionnement départemental, national et européen, il y a des décalages. Donc après, on se pose certaines questions. Des choses ont été faites, il ne faut pas le nier, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a un décalage entre l'Europe
et les États.
Alors c'est vrai qu'on ne peut pas non plus incriminer comme là on incrimine beaucoup. Il faut une Europe beaucoup plus sociale, je pense, une solidarité, une Europe solidaire. Et qu'à la création de l'Europe, on n'a pas pris en compte justement, on n'a pas eu la vision élargie des problèmes que l'on pouvait rencontrer, n'était pas sur le plan de l'égalité.
Et puis c'est vrai que l'Europe est bâtie sur l'économie.
L'économie n'est pas bâtie sur le social et l'humanisme.
Yeah.
Et alors moi, plus je découvre le monde des tziganes, enfin des Français au moins, je m'aperçois que c'est pas si simple, y compris entre eux. C'est-à-dire que il y a quand même des tas d'avis différents, et je vois simplement l'UFAT, par exemple. Ça s'est créé comment ?
Alors l'UFAT s'est créé... L'UFAT, déjà pour commencer, c'est une union qui a rassemblé toutes les ethnies. C'était important aussi de rassembler aussi qu'ils soient sédentaires ou non sédentaires, parce qu'il faut regarder sur le fond ce qui unit les gens. Donc on a rassemblé les Roms, les Tziganes, ce qu'on appelle, les gens du voyage, les Sintés, les Manouches. Voilà, c'est ça l'Europe, l'UFAT. L'UFAT a rassemblé toutes les ethnies.
Oui, mais...
Chacun dans sa diversité, dans...
C'est donc déjà un regroupement d'associations.
Exactement, voilà.
Et comment ça se passe alors? Chaque association envoie des délégués
Alors on a nommé un comité exécutif où il y a 4 personnes. Les statuts sont déposés en préfecture et nous avons adhéré à peu près une 30aine d'associations dans toute la France. D'autres vont pouvoir s'ajouter. Mais là aussi, c'est vrai qu'il y a des divergences, toujours sur l'appellation, sur les appellations.
Cette fameuse appellation.
Voilà, cette fameuse appellation. Voilà. Alors, gens du voyage, on ne va pas le répéter, on sait que c'est un terme administratif. Il y en a qui se reconnaissent dans cette appellation. Après, nous, on est Sinté. Et moi, je dis qu'avant, au temps de ma famille, on ne se présentait pas en disant « Ah, je suis Yéniche. Ah, toi, t'es Manouche. Ou t'es Rome », parce que les Roms, on les appelait les Hongrois. Et on ne venait pas au nom d'une ethnie. On savait qu'on n'avait pas les mêmes spécificités, chacun avait ses coutumes, entre guillemets, ses petites choses, mais on ne rentrait pas dedans. Quoi.
C'est comme un breton et un auvergnat.
Voilà, quoi. Exactement. Voilà, chacun avait, il y en avait, ils mangeaient du chat, il y en avait, ils mangeaient de l'hérisson, mais on identifiait par ça ou la manière de mettre le lit. Si le lit de plume était en pointe, c'était si c'était les Yéniches, voilà, il y avait plein de petits détails qui... Mais ça, c'était à l'intérieur, c'était une façon d'être.
Et toi, tu as voyagé ?
Alors moi, j'ai voyagé, bien sûr. Mes enfants sont nés en caravane. Mes filles sont nées en caravane. Et on avait une maison qui était dans la Haute-Loire. On partait l'été parce qu'on faisait aussi les fêtes. Mon père, on faisait la récupération, le cadenage. À cette époque-là, c'était les peaux de lapin. Maintenant, c'est les Chinois qui le font. Et on était donc... Et on avait aussi... on avait acheté cette maison avec d'autres voyageurs. Parce qu'on avait un problème, j'avais un petit frère qui est décédé et qui avait besoin de gros soins médicaux. Et à cette époque-là, on avait une mère exceptionnelle aussi, on n'a jamais manqué de rien, qui allait chiner et qui vendait, qui faisait... Et je l'accompagnais par le train, avec le gros ballot sur le dos, pour aller chez les clients, pour faire le canage, pour aller vendre les draps, les torchons, le métis, la fleur bleue à cette époque. Et puis voilà, elle était commerçante, elle avait sa patente et on a eu une mère extraordinaire. Donc qui nous a laissé aussi son courage et son combat. Elle est décédée à 90 ans, donc je pense que ma mère m'a donné beaucoup sa force et sa ténacité.
Et alors, c'est marrant parce que tous les voyageurs, enfin les gens qui sont nés sur le voyage plus exactement, que j'ai rencontrés ont tous une énorme nostalgie du voyage.
Alors pour être honnête avec toi Jean, aujourd'hui je suis née dans une famille où même on recevait aussi beaucoup de voyageurs chez nous. Ça permettait aussi que les voyageurs, nos familles viennent se stationner dans notre maison. Et on avait aussi les Manouches avec les chevaux qui venaient, les familles Reynard qui venaient vendre aussi chez nous. On leur achetait leur cuivre, on leur achetait ces choses-là, mon père. Et j'ai de merveilleux souvenirs de ça. J'en ai des mauvais, parce que c'était pas toujours facile. On n'avait pas besoin d'aller au cinéma. On avait les films comiques, on avait les films dramatiques, on avait tout. Hein. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je suis allée à l'école. Et je pense que pour moi, a été, en somme, ce que je suis aujourd'hui, bien que je ne suis pas grand-chose. Mais je peux m'exprimer, je peux écrire, et j'ai eu le privilège, grâce à cette situation médicale, familiale, des soins de mon petit frère, j'ai eu la chance d'aller dans une école privée, où j'avais même l'uniforme. Donc, et je suis allée à l'école jusqu'en quatrième, mais j'aurais voulu continuer. Parce que j'aimais apprendre, et j'ai connu aussi les discriminations. Mais ces discriminations m'ont fait, en somme, apprendre aussi, observer. Donc je suis une très grande observatrice, je ne suis pas une grande oratrice, mais je suis une grande observatrice pour comprendre, apprendre. Et j'ai pu observer que tout le monde n'était pas tout noir, tout le monde n'était pas tout blanc. Et j'ai rencontré aussi des gadgets dans ma situation de bohémienne, qui étaient gentils aussi, il y a des gens qui nous ont apporté, et ce qui m'a permis aussi de discerner que tous les gadgets n'étaient pas racistes, n'étaient pas méchants, il y en avait des pas gentils, c'est sûr, et que chez nous, c'était la même chose. Et j'ai consacré beaucoup de temps, et j'aurais voulu être avocat. Au contraire, justement pour défendre les miens. Mais il était interdit, comme tu le sais, chez nous, d'aller à l'école, parce que tu devenais comme une gadget. Et tu n'allais plus regarder les tiens. Et ça perdure toujours parmi nous aujourd'hui, parce que tu ne parles plus, entre guillemets, comme une gadjie, et j'aimerais savoir ce que ça veut dire parler comme une voyageuse. Est-ce qu'être une voyageuse, ça veut dire ne pas savoir lire, écrire, parler, ou comme on parle? Non. Et c'est pour ça que j'ai combattu là-dessus, au sein de ma propre famille. C'était strictement interdit. Mon père me menaçait de brûler les cahiers, que je ne faisais jamais de devoirs. Donc en cachette, j'observais, j'apprenais la nature, parce que nos parents nous ont légué un gros héritage sur les métiers, sur la médecine. On n'en parle jamais de ces choses-là, sur la médecine, sur la façon de se débrouiller, sur les plantes, sur les arbres, sur toutes ces choses-là. Mes grands-parents et ma mère nous soignaient comme ça. Donc on sait telle plante, à quoi elle correspond, à quoi elle sert. Donc ça, c'est une richesse. Et si tu veux, l'école est venue en somme compléter cette base de connaissances que nos parents nous ont léguées et qui peut justement, quelque chose de riche. Qui est une grande richesse. Et j'ai toujours voulu que mes filles aillent à l'école. Donc je suis maman de 4 filles qui ont été scolarisées. Et j'ai travaillé très très dur. J'étais sur les marchés. Ensuite j'ai ouvert mon magasin dans la Haute-Savoie. Et j'ai voulu donner une éducation, c'est-à-dire une scolarité à mes enfants. Et aujourd'hui je suis contente du milieu d'où je suis venue. Je précise bien, c'est pas grand-chose. Mais mes filles ont une situation. Elles ont fait l'école d'infirmière, travaillent à Genève, au Hugues. Donc à Genève, mon autre fille travaille et juriste à Genève. J'en ai une autre qui a fait une école d'esthétique, qui est artiste aussi et qui chante. Et j'en ai une autre qui est mariée avec un manouche, qui a 4 enfants, puis qui s'occupe de ses enfants et travaille avec son mari, qui fait comme tout, qui est artisan dans les toitures. Voilà.
Gelen gelen Logo ne drome Malak dile Şukare Romesa Gelen gelen Logo ne drome
Entre les tziganes et les gadjés viennent, enfin à mon sens, d'une énorme méconnaissance les uns vis-à-vis des autres. Et vous avez effectivement toute cette culture que tu viens de rappeler, cette culture basée sur finalement une vie simple, naturelle, les plantes et tout ce qui est lié à une vie naturelle, j'allais dire. Et comment il y aura, d'après toi, comment il y aurait moyen d'abattre le plus possible d'a priori et de s'aborder les uns les autres, de partager nos cultures, de s'enrichir culturellement les uns les autres le mieux possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Il y a des murs à abattre.
Oui, mais comment les abattre?
Alors, ben déjà, en apprenant déjà à se connaître, à se respecter, on ne peut pas tous se ressembler. Je dis toujours, un arbre ne fait pas la forêt. Et on a besoin d'apprendre l'un de l'autre. On n'est pas, nous, la race des seigneurs. Et les gadgets, ben, ne sont pas nos rois pour nous dominer. Quoi. Je dis, il y a toujours aussi cette chose qu'on veut apporter. Et je dis toujours dans mes réflexions, c'est vrai que les gadgets ont apporté, ils continuent d'apporter. Moi, j'ai beaucoup appris. C'est grâce à eux, je leur dois aussi, même à la limite, si je suis. Et c'est les gadgets qui m'ont nourri. Grâce à mon travail, c'était mes clients. Donc j'ai beaucoup de respect aussi pour ces gens qui ont permis que je puisse vivre. Donc il faut le respecter, ils nous donnent, c'est eux. Hein. On est des commerçants, mais si on ne les avait pas, on ne pourrait pas être ce que l'on est. Et je pense qu'il y a un travail de part et d'autre à faire. Des deux côtés, parce que déjà même à l'intérieur de chez nous, entre nomades et non sédentaires, il y a déjà des incompréhensions. L'autre, il est plus voyageur que l'autre, parce que l'autre est sédentarisé. Et entre le voyage fait partie de la culture, il faut le préciser, mais ce n'est pas la seule raison. Regardez les Roms. Ils n'étaient pas sédentaires. N'étaient pas nomades, pardon. Ont voulu aller de l'autre côté. L'autre fois, j'ai discuté avec une Roumaine. Chez nous, il y a des Français qui ne connaissent pas leur histoire de France. Alors que des gens qui étaient derrière le barreau, le rideau de fer communiste, peuvent nous en apprendre aujourd'hui parce qu'ils voulaient aller à l'extérieur pour apprendre comment ça se passait. Donc si on ne fait pas une démarche déjà personnelle d'aller vers l'autre pour apprendre, pour comprendre le partage, chacun en restant dans... On ne peut pas changer, chacun a ses spécificités. Et je dis qu'il ne faut pas mélanger les coutumes et la culture. Ce n'est pas la même chose.
Précise, ça c'est intéressant. Ça, précise, c'est... s'il te plaît.
Alors, les coutumes. C'est pour ça que je pense qu'au sein de notre fédération, chacun respecte les coutumes. Il y a des choses où je ne serais pas d'accord de faire aujourd'hui, nous sommes en 2013. Mais je vais le respecter parce que c'est leur coutume. Mais je dis que les coutumes, elles ne doivent pas être imposées. Elles se font au sein familial. Et on doit les respecter. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé en Afrique du Nord, il y a plusieurs années, au Canada, aux États-Unis. Et cela m'a permis aussi de m'ouvrir, de connaître les autres. Et lorsque j'allais dans un pays, par exemple, dans les années 77, pays égyptien, j'ai fait les déserts aussi, ou en Égypte, j'y serais pas allée en mini-jupe. Ou je serais pas allée, je respectais... on doit respecter lorsqu'on va chez les pays, respecter au moins leurs coutumes. C'est pour ça que je ne suis pas à m'attarder le foulard. Je ne suis pas à m'attarder sur des détails qui divisent plutôt que de construire. Personnellement, je préfère avoir une jolie femme avec un très beau voile plutôt que d'avoir une femme qui se balade à poil dans la rue. C'est mon avis personnel. Voilà, donc ce sont ces petites choses, on peut tout choquer à un moment ou un autre par nos comportements.
Mais pas le faire exprès.
Oui, mais pas provoquer. Voilà. Je dis, moi je suis française aussi, moi j'aime mon pays, malgré qu'on a un très bon pays, j'ai travaillé, on a un très beau patrimoine. On fait partie de ce patrimoine culturel et historique, il faut le préciser. Donc l'État se doit aussi de reconnaître notre culture et notre histoire. A du mal aussi à reconnaître, on leur tire les oreilles. Et je pense que de reconnaître justement cette histoire, de reconnaître ce qui s'est passé, peut être aussi un moyen justement de dire oui, ça s'est passé. Ce n'est pas qu'une reconnaissance entre guillemets qu'on appelle symbolique. Il faut aller plus loin et reconstruire sur des bonnes bases.
c'est vrai que, bon, je prends quelque chose qui commence tout juste à être connu, le Samedi Harry Penn. Moi, étant gosse, enfin même adulte d'ailleurs, j'en avais jamais entendu parler. J'avais entendu parler de la Shoah, mais absolument pas de ce qu'on avait fait aux Tziganes pendant la guerre.
Voilà, mais il faut dire aussi qu'il y a avant nous, il y a d'autres gens, il ne faut pas les oublier, qui ont combattu avant nous, que ce soit même pour la loi 69. Nous ne sommes pas aujourd'hui les seuls à combattre, ce n'est pas le rôle d'une seule personne. Beaucoup de gens ont travaillé là-dessus avant nous, ont réclamé, même au niveau. Mais je dis toujours, Jean, il y a un temps pour tout. Je pense qu'aujourd'hui, par les événements, c'est le temps. Aujourd'hui, il y a des représentants, je veux dire, institutionnels qui sont là parce que les voyageurs, on va dire les Tziganes, il y a des anciens qui ont fait un gros travail aussi. Et aujourd'hui, ça s'est effondré parce qu'il faut aussi que les jeunes prennent la relève. Il faut qu'ils connaissent leur histoire. Si un peuple ne connaît pas son histoire, un peuple qui ne connaît son histoire ne peut exister. Doit connaître son histoire. Donc nous devons travailler sur l'histoire, sur la culture, qui élargit, justement, la culture aussi est un lien. Et justement, nous travaillons actuellement, maintenant on ne sait pas ce que ça va donner. Tu sais que le ministre de la Culture donc, prévoit de signer une charte avec Madame Filippetti, où les associations, l'UFAT, l'AFNASAT, toutes ces fédérations nationales sont incluses dedans. Et il ne faudrait pas non plus, il faut aller plus loin aujourd'hui, hein, comme par exemple une reconnaissance d'un centre culturel.
Mais est-ce que tu ressens, quand tu as affaire, par exemple, à des gens du gouvernement, une réelle volonté de reconnaissance, de partage ?
Écoute, aujourd'hui, mon avis, il y avait un travail qui avait été commencé en 2010. Hein, on avait été invité, justement, c'était Hubert Falco qui avait fait un très beau discours sur les crimes perpétrés par l'État français. Malheureusement, c'est passé inaperçu suite, ça a été malheureusement avec les événements de Saint-Aignan et la bataille a repris, quoi. Alors je pense qu'ils ont une responsabilité aujourd'hui au niveau de l'État. Et, c'est vrai, il y a le dialogue déjà aujourd'hui, mais avant il n'y avait pas de voyageurs qui étaient là. Quand on demandait aux voyageurs, et personne ne peut le faire qu'à leur place.
J'allais y venir, parce que j'allais raconter que le premier contact que j'ai eu avec toi, c'est quand j'ai eu l'idée de faire cette émission, et j'ai essayé de contacter des gens représentatifs, et je t'ai eu au téléphone, et je me souviens qu'au cours de cette conversation téléphonique qui a duré quand même un certain moment,
c'est vrai,
tu revenais sans arrêt sur une chose. C'est aux voyageurs de parler des voyageurs.
Ben c'est mon, comment dirais-je, oui, parce qu'il faut qu'ils s'engagent personnellement. Ce n'est pas une ou deux personnes. On ne va pas tirer. Il faut qu'ils soient responsables de leur propre histoire. Il faut que la génération, c'est à eux. Personne. Et je me souviens justement, c'est une parole que m'avait donnée Madame Veil, qui était là. Voilà. Et il m'avait dit cette parole, pour cette femme, j'ai une admiration aussi particulière, et avait dit, c'est à vous de le faire et personne d'autre. Donc cette parole m'est restée, et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours léguer au gadget, ou avoir des paravents, on doit être responsable, et aujourd'hui c'est le temps, c'est pour ça que je dis, il y a un temps pour tout, dans toute chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu m'as posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, oui, sinon, je ne serais pas là, parce que c'est comme une entreprise, c'est-à-dire qu'à partir de ton entreprise, eh ben, elle ne fonctionne pas, ben, tu te dis, il faut que j'arrête ou il faut que je revoie autre chose. Je m'attache encore, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, il faut le préciser, peut-être, I have a dream, mais on a un rôle à jouer aujourd'hui, et je dis, il y a une ouverture qui est faite, il y a une ouverture. Je n'ai pas dit qu'il y avait... La loi 69 est à abroger. Ça a été un travail avec les institutions en partenariat. C'est un combat qui a été mené aussi avec les associations, les institutions civiles, nationales et politiques, et européennes. Donc ça a été un combat, et j'espère que le livret de circulation prochainement sera aboli et que l'on pourra le mettre au feu.
Et alors moi je ne sais pas ce qui se passait il y a au-delà de 3 ans, parce que je ne connaissais pas le sujet. Mais depuis que je m'intéresse à ce sujet, je découvre qu'il y a un tas de manifestations avec un support culturel, comme par exemple ici ce festival du film de Douarnenez, mais qu'il y a un certain nombre de rassemblements comme ça en France consacrés au monde tzigane. Est-ce que c'est un phénomène nouveau et qui s'amplifie, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps?
Je pense qu'il y a les gens ont pris conscience de la problématique rome hein, ou tzigane en France, donc on le voit, les gens sont, mais là aussi il faut être dans ces rassemblements. C'est un avis hein, que je partage, je n'impose pas, ce n'est pas ma vision, mais c'est un avis, c'est un échange. Je pense qu'il faut aussi être prudent, parce qu'aujourd'hui on a l'impression de ne sait plus qui est qui fait quoi. Et je dis toujours que l'enfer est pavé de gens de bonne intention. Et il faut avoir la connaissance, parce que, comme hier le débat qu'il y a eu, il était important, et on travaille justement au sein du FERVE, au niveau, de rappeler que les choses doivent être à leur place. Et justement, il faut avoir la connaissance des Roms, la connaissance. Et souvent, il est difficile d'expliquer le « je suis ». Alors là aussi, vous avez plusieurs vues. Et c'est important que justement, moi, je prône ce slogan, si on peut dire, comme je l'ai fait au sommet des maires, parler pour les gens, parler pour les Roms sans les Roms, c'est faire contre les Roms. Parler pour les gens du voyage sans les gens du voyage, c'est faire contre les gens du voyage. Et de leur donner la parole. Et nous, c'est ce que l'on cherche, nous-mêmes, à l'intérieur, que les gens n'en soient pas là comme des leaders, à tout décider, à tout voir, dire « moi, je suis représentant ». On doit les dépasser que la représentativité. On n'est pas là. Bien sûr qu'il doit y avoir des meneurs. Il doit y avoir des gens qui connaissent. Il faut connaître les lois. Et c'est très intéressant, parce qu'il faut le faire, mais il faut apprendre. Il faut apprendre les fonctionnements. Il faut apprendre les dysfonctionnements. Il faut même faire du droit, il faut connaître la loi, il faut connaître les lois européennes. Donc ces choses-là, elles ne s'apprennent pas comme un coup de baguette magique. Ça demande du temps. Moi, pour moi, aujourd'hui, en tant qu'autodidacte, qui m'a permis d'être là, c'est d'observer, de comprendre, constater, apprendre. Ça m'a pris 10 ans, 8 ans, 10 ans. Donc c'est énorme. Ça représente je ne sais combien d'années d'études. Les choses ne se font pas comme ça. Puis, il faut mettre... C'est vrai que chez nous... Les voyageurs, et moi ça a été, c'est-à-dire que je les appelle souvent des pense-minutes, parce que faut se projeter dans, c'est ça un politique, c'est ça la politique, c'est se projeter dans ce qui pourrait arriver, et avoir une vision élargie des choses. C'est pour ça qu'on n'existe plus ensemble quand on est là-dedans, il n'y a plus de moi-je. On se projette, on a cette vision élargie, et l'Europe c'est ça. Et moi c'est le contraire. J'étais une Française qui, matériellement, qui a eu la chance de pouvoir assumer ma famille, où on n'était pas trop malheureux. Des moyens éducatifs, il faut le dire, la France a mis des moyens depuis des années pour les voyageurs. On peut aller à l'école de la République, personne ne nous interdisait d'aller à l'école, il faut le dire. Et moi, c'est le contraire. Je me disais toujours, je me considérais, je dis, je suis pas normale. En tant que femme issue de de la population des voyageurs, je dis je suis pas normale, je ne dois pas être une femme, j'ai pas les mêmes visions, j'ai pas la même compréhension, pour moi, pourquoi je suis avec la scolarité, je pleurais même pour aller à l'école, moi j'aurais été fascinée pour les langues. Voilà. Et le sens contraire, c'est lorsque j'ai eu ces rencontres internationales justement avec ces femmes, la première c'était à Athènes, au Parlement, il y a 6 ans environ. Ben moi, ces femmes roms m'ont énormément apporté. Vous voyez, donc c'est le contraire. Et lorsque j'ai été face à ces femmes intellectuelles, bien entendu, qu'il y avait des femmes qui étaient députées, qui étaient journalistes, qui étaient... J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Mais c'est ça qu'il faut chez nous. Et là, j'ai ça m'a donné de la force pour continuer et puis d'avoir des contacts justement avec ces femmes-là, avec les institutions européennes. Le FERV a été créé et là donc si vous voulez, le FERV c'est une institution qui comporte 144 000 et il faut pour être représentant, il faut être rom donc tous les pays, et là il y a des échanges bien sûr, qu'il y a un partenariat qui a un statut partenaire particulier pardon, avec le Conseil de l'Europe, et là il y a des échanges, des compréhensions, et avec bien sûr le Conseil de l'Europe qui est représenté, d'autres institutions, observateurs, etc.
T'as donc, pas... Excuse-moi, je reviens là-dessus, oui. Parce que t'avais commencé un truc, oui. Et puis t'es parti sur autre chose. Pourquoi les pense-minutes ?
Parce que même dans... Pourquoi les pense-minutes ? Parce que c'est toujours au dernier moment.
Qui,
dans l'organisation... vous voyez, par exemple, en 2010, ça a été une bonne chose. Mais il n'y a rien qui... C'est toujours... voilà, on est sur le qui-vive, on agit...
Là, tu parles du peuple tzigane, oui, dans son ensemble.
Oui, on agit dans l'urgence. On fait un peu finalement comme les politiques, parce qu'ils n'ont pas prévu qu'on est en 2013 et que peut-être qu'ils auraient dû prévoir aussi cette politique pour ne pas encore sacrifier des générations avec les moyens qu'on avait à bord. Et puis, depuis le temps, on aurait pu suivre aussi l'évolution, rien qu'à voir le rapport des comptes dans l'évolution de l'éducation. Et il y a eu de faibles résultats. Donc, ils sont peut-être un peu comme les... à comparer un peu comme les politiques.
Et alors, je vais te poser une... Une dernière question, j'allais dire, plus personnelle. C'est-à-dire qu'au niveau de responsabilité que tu en es, entre autres au niveau européen, ça, on a dit tout à l'heure que ça nécessitait plein de travail, mais ça consiste très vite en quoi finalement ? C'est des réunions, c'est des déplacements, c'est quoi ?
C'est beaucoup de déplacements en Europe. Déplacements, de réunions, de palabres,
donne
de discussions.
Des exemples qu'on comprenne bien.
Dernièrement, donc, nous allons préparer cette fameuse, dire, au niveau européen, ce qu'on appelle la Roma Pride au mois d'octobre, le 2 à Paris. Et la marche des voyageurs, là aussi, il y a des difficultés au niveau de l'appellation, hein, comme peut-être tu l'as entendu, mais il est important au niveau qu'européen, on se mobilise justement pour qu'on est encore là. Et ça consiste à beaucoup de discussions. J'aimerais davantage voir des actions. Et c'est vrai que c'est intéressant. Parce que là aussi, je te dis, on apprend, il faut apprendre. Il y a des choses qui se font, des avancements, mais il faut sortir de la représentativité, il faut peut-être aller plus loin aujourd'hui. J'ose le dire, même si ce n'est pas moi qui, peut-être que les générations futures, préparer nos jeunes, la jeunesse, justement, à reprendre le combat, qu'ils soient prêts. Et pourquoi pas, justement, quand on voit aujourd'hui la population des gens du voyage, je dis parle sédentaire, pas sédentaire, Rome, Tzigane, Yeni, Shinte, Manouche, on ne va pas chercher, ne sont même pas représentés, il n'y a même pas de voix à l'Assemblée nationale. Et je dis qu'une chambre qui n'est pas représentative n'est pas respectée. Donc, on doit peut-être aller vers cela, j'ose le dire. Voilà.
Eh bien, le temps passe, Francine. Est-ce que y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre, c'est-à-dire quelque chose que tu as vraiment envie de dire devant ce micro ?
Oui, j'aurais peut-être un message. Mais que il faut s'unir. Et que on a tous, chacun a apporté quelque chose, mais... Je me fais une petite réflexion, je l'ai dit encore hier, et c'est des paroles que j'ai eu dit aussi au sein des rencontres institutionnelles, parce qu'on veut toujours nous apporter. Et je dirais, nous, que pouvons-nous vous apporter ?
Un grand merci, Francine.
Voilà, merci Jean, à toi.
Et
merci.
Peut-être à une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire.
Beaucoup, voilà, mais en tout cas merci.
Nous on se retrouvera.
C'est gentil, merci beaucoup.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais donc vous quitter en vous disant la chaudrome. Et puis, comme d'habitude, pendant le générique de fin, je vais vous lire deux petits textes. Ce sont des textes qui ont été écrits par Jean-Marie Kerviche. Le premier texte a pour titre « La place ». Vêtu de mon vieux pantalon et de mes bottes gitanes à talons hauts, je cherche à m'arrêter sur la place d'un village. Mais tous ces villages que sont les esprits des lettrés ne me souhaitent pas la bienvenue. Je ne trouve pas de coin pour mettre mon poème. En écrivant, je tente de dépasser la médiocrité de mon être, mais mes efforts n'intéressent personne. Le monde est comme une caravane mal calée où tout ce qui est précieux dégringole par terre. Pourquoi écrire ? N'aurait-il pas mieux valu que mes pensées s'assoient sur mes genoux et me parlent dans leur poétique langage ? Que ma tête soit l'unique livre dont j'aurais moi-même effeuillé les sombres pages? Pourquoi ce long pèlerinage vers le lecteur? Combien de poètes ont sombré? Même leur propre tombe les a oubliés. Quand je mourrai, mes pensées seront orphelines. Tâchez de ne pas leur faire de mal. Le deuxième texte a pour titre « La Sûre ». Le poème est debout dans mon esprit tourmenté. Il veut être digne de la souffrance des hommes. Je veux chercher des mots qui soient indispensables, comme quand j'allais chercher des copeaux de bois et de la sûre pour les singes et les chiens. J'aimerais que mon écriture soit généreuse. Je ne veux pas fabriquer ma poésie. Je veux laisser mes mots jouer innocemment sur la page comme des petits enfants dans la neige. Je ne veux pas non plus terminer mon livre. Ce serait comme si, avec ma caravane, je m'arrêtais définitivement dans un village. Faut-il caler ma plume à la fin d'un texte comme on cale les roues d'une caravane? Un poème, c'est aussi un gitan. Ça aime l'imprévu. Ça aime marcher dans l'eau de pluie ou dormir à la belle étoile. Voilà pourquoi je veux laisser la page blanche écrire le reste de mon livre. Thank you.